Buongiorno.
Vous aimez le cinéma?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
Ça te satisfait?
Intensément.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
This is Cinérama.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Bien, ouvre tes oreilles.
Vous lisez les critiques, monsieur?
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Je croyais que j'avais affaire à un expert.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je tombe des nues.
Bonjour, on s'habitue à voir fermer les salles de cinéma et petit à petit s'organiser ses soirées avec l'écran. Alors le très petit quand il s'agit d'un smartphone, le moyen quand il s'agit d'un ordinateur et le plus grand quand il s'agit d'un téléviseur. À noter tout de même que certaines salles participent à la nuit du cinéma européen qui se déroule jusqu'au 20 novembre. Vous trouverez des séances en ligne sur la plateforme La 25e Heure proposée par les cinémas partenaires, alors peu de cinéma français, hein. Mais il y a quand même le Luxe de Caen, le Méliès de Montreuil, l'Arvoir de Rennes, l'Atalante à Bayonne. Il y a des projections gratuites donc, qui sont organisées, elles sont géolocalisées. Donc si vous habitez à 150 km de ces cinémas, vous pourrez en profiter, renseignez-vous. Et puis pour tous les autres, on vous propose un autre menu qui passera notamment par Netflix, n'est-ce pas Guillaume ?
Oui, avec La vie devant soi d'Eduardo Ponti, la nouvelle adaptation du roman de Romain Gary ou Émile Ajar au choix.
Et de Netflix, il sera encore question avec Belmondo. 16 films de la filmographie de l'acteur français sont programmés ce mois de novembre. Et donc, ce sera l'occasion de jouer un blind test. Il faudra trouver, eh bien, au travers d'extraits, 5 de ces 16 films. Marine va revenir sur Été 85, le film de François Ozon, sorti cet été, dont on avait déjà parlé. Et puis, c'est avec toi qu'on va commencer, Manu. Tu nous parles d'un film de la fin des années 70, Long Weekend.
Un film australien qui appartient à ce qu'on appelle la vague de la Ausploitation. Et c'est un des grands films fantastiques des années 70.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations?
Cinérama.
On va regarder ça.
Un long week-end, oui, que ce long week-end de Colin Eggleston, un film de 78, hein, très long d'ailleurs, qui ne débute pas dans la sérénité et l'amour. Alors le couple en crise n'est pas un thème rassurant, attractif, hein, il agit souvent comme un reflet en miroir de nos propres difficultés au quotidien. Alors l'inscrire ouvertement dans un genre prédéfini, là, ici, le fantastique, n'apporte pas une légèreté mais enrichit au contraire la dimension symbolique et allégorique d'un récit introspectif les peu aimables. Alors peu aimables car vraiment les deux personnages de Long Weekend, Peter et Marcia apparaissent dès les premiers plans comme marqués par la frustration et la rancœur. Alors derrière le confort bourgeois, ils n'inspirent aucune empathie. Leurs premiers échanges, hein, sous-tendus par une agressivité verbale, installent un malaise qui ne quittera jamais le film. D'emblée, le spectateur n'est pas dupe, il sait que cette escapade est vouée à l'échec. Alors le désir de réparation n'existe pas, ce n'est qu'une illusion, tant ce couple n'en est pas un, chacun étant isolé dans sa propre représentation de l'autre. Alors au cœur de leur relation, hein, il n'y a pas de deuil à surmonter, aucun fantôme ne les sépare, seulement des histoires pathétiques d'adultère et d'argent. Peter et Marcia sont juste bouffis de haine l'un envers l'autre et de détestation d'eux-mêmes. Alors ce constat verrouille un peu le film dès le départ, engoncé dans une direction programmatique trop univoque. Mais l'intérêt est ailleurs, dans la manière dont le réalisateur, Colin Eggleston, va détruire sciemment ce couple, le confronter à son égoïsme primaire d'être humain, vivant dans une bulle, évacuant le reste du monde et en l'occurrence la nature qui nous est autant que nous la détruisons. Alors la dimension écologique, hein, alors en vogue dans le cinéma australien des années 70, grâce notamment au chef-d'œuvre de Peter Weir, qui avait réalisé Picnic Hanging Rock et La Dernière Vague juste avant, ouvre une perspective cauchemardesque à un film qui remporta en 79 le Grand Prix à Avoriaz. Alors le couple, hein, au bord de la rupture, il part camper durant un week-end au bord de l'océan Pacifique afin de profiter pleinement de l'étendue des paysages, de l'atmosphère sauvage qui règne en ces lieux qui vont rapidement devenir anxiogène. Sur place, leur comportement ne s'améliore pas. Pire, ils se livrent chacun à leur tour à un jeu pervers, alors conscient ou non, hein, visant à détruire l'autre. Auto-centrés sur leur crise conjugale, hein, ils restent indifférents à leur environnement, commençant par jeter des déchets sans se soucier de civisme. Alors le film multiplie les séquences pointant la cruauté de ces personnages pathétiques, n'hésitant pas à écraser les insectes avant de tuer les animaux, alors soit pour les manger, soit parce qu'ils représentent un danger potentiel. Ils détériorent la nature sans entrevoir les conséquences néfastes de leur acte. Alors le fantastique s'insinue alors par petites touche hein, par des signes insignifiants au départ, mais reprenant au fur et à mesure de l'évolution dramaturgique une importance de plus en plus inquiétante jusqu'à un final jubilatoire. Les bruits inquiétants accentués par l'absence de musique, les branches qui fouettent les visages, les insectes qui s'immiscent dans le quotidien du couple, l'attaque d'un oiseau inoffensif demeurent les quelques éléments qui vont dérégler le séjour déjà pas mal perturbé. Hein. Évidemment, l'idéologie on va dire animiste, voire panthéiste, domine un film radical qui fait peu de cas de l'espèce humaine. Mais il faut surtout voir une critique en creux en fait, d'une société consumériste repliée sur elle-même, totalement déconnectée d'une réalité primitive présente bien avant l'existence de l'homme. Les images splendides nous invitent à admirer une nature majestueuse et variée que nos protagonistes sont incapables d'apprécier à sa juste valeur et qui va se retourner contre eux. Les 20 dernières minutes cathartiques hein, font l'effet d'un déchaînement jouissif envers deux pitoyables individus hein, obsédés par des problématiques futiles. La mise en scène sert le propos hein, en multipliant les plans larges, en dénudant le récit de tout artifice. Elle nous met à distance hein, dans une position d'observateur, provoquant un effroi glaçant, jamais immersif. Alors le spectateur ne se retrouve jamais du côté des personnages. La peur naît au contraire de l'ambiance pesante et non d'une identification liée à ce qu'ils subissent. Alors écrit par Everett Doroche, qui est l'un des scénaristes les plus prisés du cinéma de genre australien, hein, Long Weekend de Colin Eggleston, hein, un cinéaste d'ailleurs qui ne confirmera pas son coup d'éclat par la suite, hein, il ne fera vraiment pas grand chose à part un petit film sympathique qui s'appelle Cassandra. Le film sort en Blu-ray chez Le Chat qui fume, après avoir bénéficié donc l'an dernier d'une ressortie. Outre sa copie splendide, hein, le film est bardé de bonus passionnants, bah, comprenant notamment une intervention de Everett Doroche, le scénariste, et puis de plusieurs intervenants qui étaient présents sur le film. Malheureusement, pas le réalisateur Colin Eggleston, qui est décédé depuis quelques années déjà.
Merci Manu. Donc on a commencé cette émission avec un DVD, un support physique. On va poursuivre avec un support maintenant complètement virtuel. C'est la VOD. C'est la sortie du dernier film de François Ozon, L'initiation amoureuse, dans l'été 85. On en avait parlé justement bien cet été dans l'émission Cinérama, mais vous l'aviez peut-être raté. C'est pourquoi Marine fait une piqûre de rappel.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Eh bien, oui, je crois que oui.
Faut qu'on parle de ce que tu as fait. Le juge a besoin de savoir pourquoi tu agis de cette manière. Et c'est à moi de donner mon avis.
Non. Ça ne vous regarde pas.
Un été 85, sur les plages de la Normandie, Alexis rencontre David, un jeune homme plus âgé, beau et charismatique, et tombe tout de suite sous son charme. Il va vivre avec lui un été de passion, de danse, de fête. Mais David est trop libre pour s'attacher à quiconque et le couple se sépare violemment, violemment jusqu'à l'irréparable. Comment David est-il décédé ? Quelle est l'implication d'Alexis dans sa disparition ? Un été 85 est construit par flashback pour tenter de démêler cette histoire d'amour et de mort.
Toi et moi, on a des milliers de balades à faire ensemble. On se connaît que depuis ce matin.
Et pourquoi perdre du temps ?
On est tous mortels. À cet instant précis, il n'y avait rien au monde que j'aurais pu lui refuser. Je voulais passer tout mon temps avec lui. Et pourtant, quand j'étais avec lui, cela ne me suffisait pas non plus.
Alex, on pourrait peut-être emmener Kate faire une promenade.
Oh, j'adorerais.
Si la trame du film, une histoire passionnelle, hein, voire un peu toxique, est somme toute assez classique, c'est la photographie d'un été 85 que l'on retient, tant le film foisonne de plans qui s'imprègnent en nous. Filmé en Super 16, baigné par la lumière des côtes normandes et l'esthétique des années 80, un été 85 parvient à être nostalgique sans tomber dans la reconstitution de carnaval et à ainsi offrir une portée intemporelle. Et si le film offre une beauté immédiate et une sensibilité évidente, c'est en grande partie grâce à ces deux interprètes absolument excellents, Félix Lefebvre et Benjamin Voisin qui interprète David. Benjamin Voisin déjà remarqué dans le remarquable La dernière vie de Simon. Et puis on ne peut que souligner la qualité de l'excellente bande-son, hein, une bande-son tellement importante que le titre du film a même été changé pour pouvoir obtenir les droits de la chanson de The Cure, In Between Days, passant d'été 84, ce qui devait être le titre initial du film, à été 85, été de sortie du 10 morceaux. Le film qui traite autant du deuil que de l'amour n'est pas exempt, certes, de quelques lourdeurs. Avait-on besoin, pour comprendre qu'il s'agit d'une romance gay, d'ouvrir le film sur un plan de bateau dont le nom est le tape-cul ? Était-il nécessaire de filmer le jeune héros en pleine mélancolie devant un crâne pour comprendre qu'il est obsédé par la mort ? Mais si François Ozon se permet parfois un second degré assez peu nécessaire, la réalisation solide questionne intelligemment les premières relations et le sens de l'amour lui-même, naviguant entre Eros et Thanatos tout au long des 100 minutes du film. Été 85, c'est le 19e film de François Ozon, auteur prolixe du cinéma français qui tourne presque un film par an, mais aussi explorateur passionné de l'âme humaine et des différents genres qu'offre le 7e art. Il a ressuscité Charlotte Rampling dans Sous le sable, offert son premier rôle dramatique à Alexandra Lamy dans Ricky. Il a révélé Marine Wacht dans Jeune et Jolie, dirigé Ludivine Sagné dans Huit femmes alors qu'elle était encore une toute jeune comédienne, avant de lui faire incarner une femme fatale dans Swimming Pool. C'est aussi un cinéaste fidèle à ses acteurs comme à Melville Poupeau qui traverse son cinéma depuis ses débuts dans Goutte d'eau sur pierre brûlante, puis interprète un jeune photographe atteint du sida dans Le temps qui reste, un toxicomane dans Le refuge et enfin un professeur de littérature dans Été 85. Il retrouvera également Jérémy Régnier, qu'il a dirigé pour la première fois dans Les Amants criminels en 99, dans Potiche en 2010, puis dans L'amant double en 2017. Alors, existe-t-il un style Ozon ? Difficile de l'attacher à un genre cinématographique, à un gimmick de mise en scène ou même à un sujet de prédilection. Il peut s'essayer au réalisme social et très contemporain du « Grâce à Dieu » qui dénonce les agissements pédophiles de l'Église, au réalisme magique de Ricky qui narre l'histoire d'un bébé ailé, né d'une mère ouvrière un peu dépassée par cet enfant intenable. Ozon aime autant la légèreté vintage comme dans « Huit femmes » ou dans « Potiche », la grandiloquence du mélodrame « Angèle » ou encore le noir et blanc lumineux de Franz. Ozon se décline et ne se répète jamais, gardant toujours pour fil rouge une certaine approche de la transgression, surtout en amour. Les personnages de Ozon se travestissent, sont attirés par les mauvaises personnes, testent leurs limites et celles de la société. Et derrière les impérieux désirs de ces personnages, c'est toujours le désir de ce réalisateur inclassable que l'on ressent, le désir sans fin qui continue de le pousser à explorer le cinéma.
Été 85 de François Ozon est maintenant disponible en VOD. Ça nous donne l'occasion d'écouter en version condensée la bande originale de ce film qui est forcément tirée des années 80. We'll be right back. Netflix a décidé de mettre en avant Jean-Paul Belmondo. C'est l'occasion de jouer un blind test autour de la filmographie de l'acteur français.
Cinérama.
Oh non, ça suffit, de quoi s'agit-il, d'une blague ?
Interview, chronique, blind test et tout le reste.
Merci.
Plus de 80 films pour plus de 60 années de carrière. Jean-Paul Belmondo est une figure du cinéma français comme on n'en fait plus trop. Hein. Netflix, qui a décidé d'offrir à ses abonnés des films du patrimoine cinématographique français, a mis en ligne depuis début novembre 16 films de Jean-Paul Belmondo qui vont s'ajouter aux deux de la nouvelle vague qui étaient déjà présents, soit À bout de souffle et Pierrot le fou. Cela fait donc de quoi bien occuper les soirées. Hein. On y trouve plusieurs époques de Belmondo, mais surtout la période années 70 et années 80, sans doute la plus fournie, mais loin d'être la plus riche, tant l'acteur va finir par s'enfermer dans des rôles stéréotypés. Alors on se souviendra quand même que Belmondo a tourné avec de grands réalisateurs, de René à Jean-Pierre Melville, en passant par Godard, Louis Malle, Claude Chabrol, François Truffaut, Claude Sautet. Alors on aura très peu de films de ces réalisateurs, mais plutôt des tripotés de films de Lautner, de Broca et de Verneuil. Alors trois réalisateurs avec qui Belmondo a beaucoup tourné. Donc le blind test porte non pas sur la filmographie entière de Belmondo, mais sur les 16 films qui sont ajoutés donc au catalogue de Netflix. J'espère que vous avez révisé, chers auditeurs. Vous pouvez même regarder la liste sur Internet, évidemment. L'avoir devant les yeux. Premier extrait de ce blind test.
Que désires-tu encore ?
Oh, rien du tout.
Parce que je peux tout te donner. Je peux tout avoir. C'est vrai ? C'est même plus amusant.
Oh si, Dominique. Amuse-toi. Ça empêche de mourir. Regarde comme un tapis ferait bien, là. Et un autre lustre. Deux appliques, là, tu trouves pas ? Puis des cachemires, une lanterne, et puis un peintre en train de faire mon portrait.
Ça a été trouvé, mais c'est la voix française qui t'a donné l'indication, Guillaume.
Oui, c'est Cartouche de Philippe de Broca que j'ai eu la chance de revoir en version restaurée l'année dernière au Cinémed. Superbe initiative.
Et donc, c'est Claudia Cardinale et Jean-Paul Belmondo qu'on écoutait dans cet extrait. Le film s'inspire du personnage de Cartouche, brigand puis chef de bande qui sévissait à Paris à la Cour des Miracles au début du XVIIIe siècle sous la Régence. Combien d'entrées, d'après vous, ce film ?
Un gros carton.
Oui, en résumé c'est ça, 3,6 millions d'entrées, donc en 62 déjà pour Jean-Paul Belmondo. Deuxième extrême.
Oh mais je l'avais pressenti en lisant les journaux, le commissaire flingueur, l'as de la brigade anti-gang. Je m'attendais à tomber sur un demeuré. Mais à ce point-là, 12 ans d'âge mental, et encore, mon petit frère a 9 ans, il est plus évolué.
Peut-être pas très évolué, mais vous c'est pas mal non plus. Vous avez lu les journaux et moi j'ai écouté les communications. Votre roman photo avec le chirurgien, c'est dégoulinant de conneries. Elle l'aime, il est marié, père de 2 enfants, trouveront-ils le bonheur ? En vente tous les jeudis dans les kiosques. Lui. Allô, ma chérie, excuse-moi, je ne pourrai pas passer la soirée avec toi. Un confrère étranger qui débarque, sans crier gare. Elle, ne mens pas, tu vas encore passer la soirée avec ta femme. Lui. Enfin, ma chérie, tu sais très bien qu'il n'y a plus rien entre ma femme et moi. Elle, pourquoi ne divorces-tu pas ? Lui. Les enfants ne comprendraient pas, mon amour. Moi, je me prends peut-être pour un cow-boy, mais au moins je ne joue pas les bacs stricts avec mon chef de service.
Donc ça a été trouvé, c'était pas si facile que ça.
Non, c'est Peur sur la ville d'Henri Verneuil.
Oui.
74, il me semble.
Oui, et sorti, enfin tourné en 74, mais sorti dans les salles en 75. Belmondo est un commissaire de police parisien traquant un tueur en série qui a une particularité physique et qui terrorise la capitale. Et il se fait appeler...
Minos.
Oui. Donc Belmondo a 42 ans quand le film sort et jouit d'une promotion importante. Et là, au niveau des entrées, c'est encore mieux que Cartouche. Un peu plus, on frôle vraiment les 4 millions d'entrées pour ce film Peur sur la ville. Troisième extrait, je rappelle que vous avez une chance sur 16 puisqu'il faut trouver un des films programmés par Netflix.
Étant donné l'importance de ce que vous apportez, monsieur Dupré, j'encaisse tout. Mais si un jour vous passez par chez nous, faites-moi penser à vous faire couper les testicules par l'aide très adroit, monsieur Yasser.
Tout le charme de l'Orient. Moitié loukoum, moitié cigu. L'indolence et la cruauté. En somme, le Coran alternatif.
Votre esprit m'enchante. Mais il faut parler à faire. Passons dans mon bureau.
Puis-je vous adresser une prière, ami ? J'aimerais que nous allions dans le salon de musique. Nous y avons des souvenirs.
Des souvenirs
douloureux.
Alors, vous ne l'avez pas trouvé. Alors, c'est pas forcément facile, hein, d'ailleurs, parce qu'ils se ressemblent tous.
Bah, c'est un peu le problème. Hein. C'est une comédie, là, en fait.
Oui, bon, en tout cas, oui. Film de Georges Hautner, sorti en 80. C'est Guignolo.
Le Guignolo.
En mission pour le gouvernement français, Alexandre Baroni, voleur récemment libéré de prison, donc est chargé de passer la frontière italienne avec une mallette. Et cette mallette contient un briquet dont Baroni ignore qu'il cache un microfilm. C'est alors qu'une horde d'espions étrangers se lance à cette trousse. Combien d'entrées ? 2,8 millions en France. Quatrième extrait.
Je vous écoute. Voilà, j'ai... Comment va Bob Sinclair ?
Il est à Acapulco.
Oh, j'aime bien Acapulco. Je vais probablement y passer cet hiver. Vous connaissez ?
Non. C'est, on travaille sur documents, alors un bon plan et quelques prospectus.
Ben oui. Je vous écoute.
Voilà. J'ai un...
Oui.
J'ai un découvert.
Oui.
Et j'ai promis à ma banque de passer tout à l'heure.
Oui.
Alors j'ai pensé si on pouvait me donner une petite avance.
Mmh.
Pardon ?
Non. Quand devez-vous remettre votre manuscrit ?
Lundi.
Très bien. Vous l'aurez lundi, votre avance. Vous voulez un cachou ?
Alors, ça a été trouvé.
C'est le magnifique ?
Oui. Film de Philippe de Broca, sorti en 73. L'histoire d'un modeste écrivain qui tente d'achever le dernier épisode des extraordinaires aventures de Bob Sinclair. Voilà.
À noter que le DJ a repris... oui, c'est le nom de ce film.
Le DJ français, oui, il s'est inspiré de ce film pour trouver son nom. Ouais, ouais, très bien. Et 2,8 millions d'entrées en France. Dernier extrait de ce blind test.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
J'ai couru tout le diocèse, j'ai pas trouvé d'eau bénite. Alors j'ai pris des sens ordinaires. Vous savez combien ça coûte, ça ? Bientôt 3 balles. Marquis, on aurait fait venir l'exorciseur, on aurait acheté des cierges, ça aurait pas coûté 3 balles non plus.
Exorciseur ? Mais pourquoi faire, monsieur Chiaouti ?
Pour chasser le diable, madame Langlois. La petite sœur vient ici, crac, elle se retrouve au ciel. Le commissaire Bertrand, pareil. Ce pauvre Mario, pareil. Alors, je me suis dit, c'est l'endroit qui est pas bon. Même pour vous, je ne suis pas tranquille. C'est pas sain.
C'est toujours années 70,
je pense. Oui, fin des années 70.
Peut-être Flic ou Voyou ?
Oui.
Voilà. Voilà. Ouais.
79, oui, film de Georges Lautner, avec Jean-Paul Belmondo, Marie Laforêt, un policier dont la fille a été enlevée, emploie la main forte pour coffrer une bande de malfrats aidés par des policiers ripoux. Et là, il va mettre le feu donc, à un bar. Donc, c'était une scène assez visuelle, mais aussi on sent le style Belmondo qui reviendra dans beaucoup de films. Premier film avec Georges Lautner, et au total, eh bien, ils tourneront quand même ensemble 5 films. Suivront donc Le Guignolo, Le Professionnel, Joyeuse Pâques et L'Inconnu dans la Maison. Ainsi s'achève ce blind test autour de la figure de Jean-Paul Médon. On rappelle donc qu'il y a une diffusion de 16 films donc mis à disposition sur la chaîne Netflix. Décidément, Netflix est toujours omniprésent hein, dans cette situation de confinement. On va parler eh bien, d'une adaptation d'Émile Ajar, soit Romain Gary. C'est La Vie devant soi. Et c'est toi, Guillaume, qui t'en charge.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Si vous voulez appeler ça comme ça.
Ben oui, on connaissait le Netflix américain. On s'était familiarisé avec le Netflix français, hein, avec des hauts comme la série Marianne et des bas comme le dernier Olivier Marshall, hein, n'est-ce pas, Manu ? On a fait un détour par Netflix Espagne avec le phénomène de la Casa de Papel. Et bien maintenant, il va falloir compter sur le Netflix Italie hein, qui sort ce mois de novembre un film plus intéressant qu'il n'y paraît. Donc, on avait déjà eu des adaptations hein, du roman du même nom hein, de Romain Gary, publié sous le pseudonyme d'Émile Ajar. Il y avait eu donc cette version en 77 avec Simone Signoret dans le rôle central de Madame Rosa qui lui avait valu le César de la meilleure actrice. Alors, même si le film a eu aussi l'Oscar du meilleur film étranger, vous l'avez peut-être oublié au profit du titre plus glorieux hein, de cette dame. Bon, c'est pas grave parce qu'ici, on remet à jour l'œuvre. Hein. Je vous rappelle qu'elle est quand même couronnée du prix Goncourt, ce n'est pas rien, avec une adaptation résolument moderne du roman. Donc, moderne, mais sans beaucoup de changements non plus. Donc Mohamed, surnommé Momo, est un jeune adolescent d'origine sénégalaise de 12 ans. Il vit chez le docteur Cohen, qui est son tuteur, et un jour, donc cet adolescent vole le sac de Madame Rosa, une vieille dame. Monsieur Cohen, qui a compris ce qui s'était passé, décide de lui rapporter et profite pour lui demander si elle peut héberger Momo quelques semaines, le temps qu'il lui trouve un nouveau foyer. Donc d'après lui, Momo a besoin d'une figure féminine forte, hein, qui a du caractère et qui domine. Donc d'ordinaire, Madame Rosa s'occupe des enfants des prostituées qu'elle élève élève le temps que leur mère puisse se retourner. Elle connaît bien les problèmes de la question car elle est elle-même une ancienne prostituée. Donc bon gré, mais surtout malgré, elle accepte de le garder le temps de 2 mois. Et autant dire que c'est selon des conditions très strictes. Hein. Sous son toit, on suit ses règles. De son côté, Momo ne veut pas aller chez elle car il ne l'aime pas, hein, vieil acariâtre, mais il est encouragé par un dealer peu scrupuleux qui voit en cette promesse d'asile une couverture parfaite pour que l'enfant l'aide à étendre son trafic, maintenant qu'il est sous les radars des assistantes sociales. Donc le dilemme cruel peut désormais se mettre en place entre la vraie famille que Momo est en train de se créer et les liens superflus mais dangereux qu'il établit avec le monde du crime qui va hériter de son âme. Dans cette nouvelle adaptation, tout tourne autour de la notion de tolérance. Madame Rosa ne veut pas de Momo sous son toit parce qu'elle pense qu'il est pourri jusqu'à l'os et que sa délinquance est directement héritée de sa famille. On comprend que le pas qui la sépare du jugement en fonction de son origine ethnique n'est pas loin d'être franchi. Cette peur va bien évidemment à l'encontre de ce qu'elle a vécu, car Madame Rosa est une survivante de l'Holocauste et sait mieux que quiconque l'injustice des préjugés qui amène à la barbarie chez les esprits les plus fermés. Elle va apprendre à comprendre Momo et à le voir tel qu'il est, un enfant, qui a eu un mauvais départ parce qu'il a eu une main malheureuse aux cartes du destin et qui a la vie devant lui. Dans les moments où il tente de s'évader par l'imaginaire, Momo dessine une lionne. Elle vient le voir pour jouer avec lui, lui lécher le visage et veiller sur lui. C'est une figure de femme forte à peine métaphorisée qui va trouver un écho certain dans le choix de casting du film, dans le personnage de Madame Rosa. Parce que, bien sûr, l'attraction du film, c'est bien elle, Sophia Loren, qui revient sur les écrans après une longue absence. Et pour cause, la mythique actrice italienne affiche quand même 86 ans au compteur, un âge quand même respectable. Et on ne l'avait pas vu en action, enfin plus vu en action, dans le cadre d'un long métrage depuis Nine de Rob Marshall en 2009, la version en comédie musicale de 8,5 de Federico Fellini. Elle incarnait déjà le rôle d'une mama iconique et importante pour son entourage masculin. Alors, ironie du sort ou pas, il ne faut pas aller chercher bien loin pour deviner l'une des raisons de son retour. Le réalisateur n'est autre que le fils qu'elle a eu avec le producteur Carlo Ponti. Mais il serait injuste d'oublier qu'il y a une autre personne à l'affiche, le jeune Ibrahima Gueye, dans le rôle de Momo, qui s'en sort très bien face à une telle partenaire de jeu. Alors, cette nouvelle adaptation s'adapte aussi à son époque et à ses thématiques. En filigrane, sans que cela soit non plus martelé, nous comprenons le portrait de l'Italie moderne que veut faire le réalisateur. La question et la gestion difficile des migrants est abordée avec son lot de rejet, de pauvreté et de contrôle de police redouté. Momo dit être musulman parce qu'il a appris à l'être à l'école. Sa couleur de peau est sa carte d'identité. On a même la mention des Misérables de Victor Hugo. Un personnage cite l'immense auteur pour rapporter qu'il y enseignait que tout est relatif, surtout le bien et le mal, et que cela dépend des gens que l'on rencontre et la façon dont on les écoute. Cette phrase riche de sens trouve un écho plus positif que dans le dernier film en date empruntant le nom de l'œuvre, même s'il faut bien avouer que le spectacle, toujours plaisant mais jamais bouleversant, ne marquera pas vraiment les esprits. Il manque un peu de hargne à ce portrait croisé de deux âmes meurtries qui apprennent à s'estimer et à s'aimer, et à l'image de la mise en scène, tout est bien dosé pour ne pas trop déborder. En tout cas, l'œuvre de Gary Ajar prouve que plusieurs vies ne suffisent pas à en épuiser la richesse et que pour continuer à inspirer les générations, on a tout le cinéma devant soi.
Merci Guillaume. Et donc, on le répète, c'est un film diffusé sur Netflix. Et si vous n'avez pas les codes, vous trouverez sûrement quelqu'un de votre entourage qui vous les fournira.
Des codes devant soi.
Au revoir.
Mais pour quelle raison ?
Eh bien voilà, on s'est tout dit.
Ah bon ?
Qu'est-ce que vous racontez ?
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
C'est difficile de répondre,
comme vous êtes bizarre.
C'est une plaisanterie !
Manu, la semaine prochaine, c'est Le Cercle Rouge.
Oui, de Melville, donc pour une ressortie dans un très beau coffret Blu-ray.
Et ce sera l'occasion de jouer à un blind test, alors avec l'un des trois acteurs, ce sera soit Bourvil, soit Yves Montand, soit Alain Delon. À la semaine prochaine.
This is Cinerama. Cinerama.
Eh ben, voilà. Pas bien méchant, tout ça.
Letellier, vous avez fait beaucoup de karaté, je crois.
Oui.
Et puis du judo aussi.
Oui.
Et au tir rapide, vous ne vous débrouillez pas mal non plus.
Écoutez, je vous arrête tout de suite, on m'a déjà fait le coup à l'armée. Vous savez parler l'anglais ? Oui ? Bon, alors corvée de chiottes.
Je veux la liste de toutes les femmes qui, depuis 3 mois, ont demandé le changement de leur numéro de téléphone. Je veux aussi savoir pourquoi elles ont demandé ce changement.
Navré de vous avoir coupé votre effet, monsieur Sabin.
Letellier, vous n'imaginez pas le nombre d'affaires de police qui ont été résolues par des corvées de chiottes.